L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
Chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Rencontre Lusophone, une émission proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et qui tous les samedis vous propose d'aller à la rencontre de la lusophonie. En d'autres termes, cette émission est accessible à vous tous, que vous soyez francophone ou lusophone. Ce soir, comme souvent dans l'idéal, nous sommes trois aux commandes de cette émission. Le grand Jeff à la technique. Bonsoir Jeff.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Tu n'as pas ton masque aujourd'hui ?
Bah, pas pour la technique. Tiens, encore une chose que je comprends pas. Pourquoi n'a-t-on jamais découvert qui était Zorro alors que moi, avec mon masque, tout le monde me reconnaît ? Cherchez l'erreur !
Tu crois, t'es sûr de ça ?
Bah oui, c'est pas normal.
Oui, t'as les cheveux blancs.
Zorro, on aurait dû le retrouver depuis longtemps. Hein,
il c'est est pas au même niveau aussi.
Bah voilà.
Bon, c'est ton analyse. Et Manu, la présentation de cette émission avec moi. Bonsoir Manu.
Bonjour Hélène, bonjour Jeff, bonjour tout le monde.
Bon, tout va bien ?
Tout à fait.
On a le soleil dehors ?
Oui, c'est ça, oui. Il y a
les journées se rallongent encore ? Encore ? Non ? Oui,
ah,
encore.
Oui, se rallonge jusqu'au 20 juin plutôt.
Alors, ce soir Manu, j'ai opté pour l'histoire du Portugal, j'ai copié sur toi, et je me suis inspirée et basée sur le livre portugais Equívocos, Enganos e Falsificações da História de Portugal, de Sérgio Luís de Carvalho, pour casser quelques mythes de l'histoire. C'est un livre qui essaie de rectifier quelques erreurs historiques devenues très populaires entre tous les Portugais, qui ont toujours eu la dent dure et qui du coup, je parle du livre bien sûr, m'a permis de raconter la vérité sur certains faits historiques forgés par les historiens au cours des siècles. Si je vous dis par exemple que le temple de Diane à Évora ne devrait pas s'appeler temple de Diane, ou si je vous dis que la forêt de Lérida, que tous les Portugais connaissent, n'a pas été plantée par le roi Dom Dinige, comme le dit la croyance populaire, vous me croirez ? Et si je vous dis enfin que les rats albinos, sanguinaires et gros comme des lapins, ont depuis des siècles envahi les souterrains du couvent de Mafra, me croirez-vous ? Mythe ou réalité ? On va essayer de tirer tout ça au clair tout à l'heure. À la fin de la chronique, à vous tous amoureux de Coimbra, on vous a mis une petite surprise. Mais pour l'instant, place à la petite chronique qui dans cette émission prend la forme d'un billet d'humeur. Et ce soir, c'est toi Manu qui l'a préparé. Tu peux nous en dire deux mots ou pas ?
Ça, sur l'exploitation du lithium au Portugal.
Très bien. Voilà. Eh bien, on y va. Jeff, es-tu prêt ?
Bon.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Une fois n'est pas coutume, cette semaine, je me suis attelé à la petite chronique pour vous parler d'un fait d'actualité du moment qui m'a, je dois bien l'avouer, interpellé. À Serra da Argemel, située entre Fundão et Covilhão, au Portugal, qui, dans les 25 prochaines années, serait amputée de 14 à 20 millions de tonnes de lithium, d'étain et de tungstène. Je dis « serait » car, dû à la crise Covid, le mois de plainte fut suspendu et n'a repris que le 3 mai dernier, pour finir bientôt. Maintenant, au-delà de la cicatrice indélébile qu'il risque d'y avoir dans le paysage, et au-delà de la pollution que pourra représenter l'exploitation, il faut bien reconnaître que l'impact matériel et financier qu'elle représentera dans la région ne sera pas négligeable. Sans compter les emplois qu'elle va générer, car il ne faut pas se leurrer, le lithium est le nouveau pétrole de l'avenir. C'est grâce à lui que tous nos smartphones et autres ordinateurs fonctionnent. De plus, c'est un des éléments les plus importants dans les batteries qui feront fonctionner nos futures voitures électriques. La société PAN, qui exploitera le site, qui s'étendra sur 403 hectares, prévoit d'extraire jusqu'à 1 million de tonnes de minerais par an, à mine à ciel ouvert, se servant entre autres d'explosifs. C'est vrai que cela risque de faire du bruit, d'autant que le travail sera fait 16 heures par jour. Le projet prévoit également un investissement de 50 millions d'euros. Le plan minier, remis en avril à la Direction générale de l'énergie et de la géologie, indique qu'il devrait générer jusqu'à 19 millions de mètres cubes de déchets miniers. Pour cela, la construction de décharges est prévue. La période initiale d'installation des infrastructures devrait durer 4 ans, avant que les premiers kilos de minerais commencent à être extraits. 4 ans où tout corps de métier auront de quoi faire. Il est clair qu'un nouvel élan économique risque de profiter aux municipalités de Fondant et de Covilhã, avec les centaines d'emplois que cela va générer, sans compter les sous-traitants qui auront matière à travailler. Bien joli tout ça, n'est-ce pas? Du moins sur le papier, car le bloc de gauche du comité de coordination du district de Castelo-Branco s'oppose à l'aboutissement du projet. Les raisons mises en avant sont la grosse demande en eau nécessaire pour l'exploitation, la pollution que cela indubitablement va générer, non seulement en Rio Jesus, mais aussi sur les petites communes situées à proximité, le bruit et les poussières qui se dégageront de la mine. Ils mettent en avance les effets sur l'économie locale, le retrait des investissements dans le secteur immobilier. Ils soulignent aussi également la proximité des zones archéologiques. Ils émettent aussi le fait que les populations locales n'ont pas été consultées, ce qui est vrai, mais que, malgré ça, elles ont exprimé leur opposition. Du moins, c'est ce qu'ils affirment. En ce qui concerne l'activité parlementaire et les positions des municipalités et des paroisses concernées, il apparaît que la Junta da Freguesia do Barco e Coutada s'exprime sans le moindre doute contre une éventuelle exploitation minière à Serra da Gemela. La municipalité de Fondant n'est pas contre, mais déjà l'assemblée municipale s'est déjà unanimement prononcée contre l'installation des mines. De son côté, Couvillon est encore dubitatif, malgré que sa position a tendance à aller vers l'opposition du projet. Malgré tout, il apparaît qu'ailleurs dans le pays, d'autres mines vont voir le jour. Le Portugal risque dans 10 ou 20 ans d'être le fournisseur officiel de lithium de l'Europe, et de cela atténuer considérablement la dépendance à la Chine, qui est pour le moment le principal fournisseur quasi exclusif en lithium. J'ai bien peur que les sacro-saints intérêts économiques risquent de passer outre l'avis que peut émettre une certaine population locale. Mais qui sait, l'abandon pur et simple du projet peut être voté également, tout cela est bien indécis. Mais certains experts, il y a quelques années, prédisaient que si le Portugal exploitait au mieux son sous-sol, dans une vingtaine d'années, le pays risquerait d'être un des plus riches d'Europe. Mais à quel prix? Le Portugal de notre enfance, campagnard, avec des routes remplies de cornières où l'on pouvait croiser à tout moment des charrettes tirées par des bœufs, le Portugal de nos vacances ne sera plus qu'un très lointain souvenir. Et c'est tant mieux. Donc voilà, affaire à suivre, nous verrons bien.
Câmara lenta com... c'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Ce soir, nous avons décidé, Manu et moi, de démentir quelques fausses vérités sur l'histoire du Portugal. Et c'était la lecture la relecture du livre « Equívocos, enganos e classificações da história de Portugal » de l'historien Sérgio Luís de Carvalho, que je me suis inspirée pour préparer la chronique d'aujourd'hui. Alors, selon son auteur, l'objectif de son livre était d'apporter quelques démentis ou de rétablir des équivoques que nous possédons tous, en général, dans l'interprétation de l'histoire du Portugal. Au cours de cette heure d'émission, tous les deux, Manu et moi, nous nous attarderons donc à casser quelques mythes historiques. Et le premier mythe historique que nous allons rectifier est celui dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui concerne une suspecte invasion de rats géants dans les bas-fonds du couvent de Mafra. L'auteur du livre, qui nous a servi de support, Sérgio Luís de Carvalho, commence d'ailleurs son paragraphe par cette phrase étrange. Le couvent de Mafra, où l'on parle de prétendus rats, géants, aveugles, albinos, châtelains et assassins.
Et puis, il nous cite ensuite les toutes premières lignes d'une œuvre littéraire de José Saramago, le mémorial du couvent, où il lit la phrase suivante. Le roi portugais, dont João V de son nom, se rendra cette nuit-là dans la chambre de son épouse, la reine Dona Maria Ana Josefa, qu'il avait épousée 2 ans auparavant pour lui donner descendance et qui, jusqu'alors, n'était toujours pas tombée enceinte.
C'est donc ainsi que commence l'un des plus grands monuments de la littérature portugaise qui raconte entre autres comment a été édifié le couvent de Mafra au nord-ouest de Lisbonne. Un édifice construit au début du XVIIe siècle sous les ordres du roi de l'époque, dont João V du nom, qui s'était promis d'ériger ce magnifique couvent si son royal ou son épouse royale arrivait à enfanter.
Et ce fut chose faite, puisqu'elle lui donnera malgré tout quelques enfants, dont le prochain successeur sur le trône, Don José Ier.
Le couvent finira donc par être construit, mais tout au long de l'histoire, il subira des occupations diverses et variées, puisqu'il sera tour à tour couvent, résidence royale, caserne pour devenir en 1890 une école pratique d'infanterie.
Et c'est d'ailleurs sous cette occupation militaire que va naître la fameuse légende qui affirme que les sous-sols du couvent sont infestés depuis des années par des milliers de rats albinos. Histoire vraie ou légende urbaine ? Qui, au Portugal, n'a jamais entendu parler de cette histoire ?
Mais tout le monde, bien sûr. Ce mythe urbain raconte que ces rats, qui ont pris possession des souterrains du couvent, seraient albinos et aveugles, et seraient aussi grands que des lapins. Alors, albinos parce que leurs gènes auraient muté, puisque depuis des générations, ils sont privés de lumière ou la lumière du soleil, et aveugles, pour les mêmes raisons, puisque, vivant constamment dans le noir, ils n'ont plus jamais besoin de leurs yeux.
Et il faut ajouter que ce mythe urbain, au-delà d'être une légende, possède également plusieurs versions, toutes basées bien sûr... Il paraît que, j'ai entendu dire que, ou encore, quelqu'un m'a dit que...
Oui, on raconte donc que les militaires qui occupent les lieux depuis plus d'un siècle ont fabriqué des trappes donnant sur les sous-sols du couvent et à travers lesquelles ils jettent régulièrement des restes alimentaires pour nourrir les rats et éviter ainsi qu'ils ne remontent en surface.
On raconte également qu'on a déjà essayé des méthodes plus radicales telles que le lance-flammes pour venir à bout de l'infestation des rats.
Il y en a même qui disent qu'il y a dans le couvent des tunnels complètement scellés pour contenir les rats et éviter ainsi qu'ils n'envahissent d'autres parties du bâtiment.
Et puis on raconte qu'un jour, 2 militaires se seraient aventurés dans les sous-sols et qu'ils se seraient fait dévorer par les rats.
Les malheureux. Il paraît que la ville aurait même essayé de contracter une entreprise pharmaceutique étrangère pour venir à bout de ce fléau, la société Bayer, pour ne pas la citer. Mais que devant l'ampleur de l'infestation, il aurait fallu une telle quantité de produits qu'il aurait été nécessaire d'évacuer non seulement la ville de Mafra, mais aussi toutes les populations sur 60 km à la ronde, et surtout de grandes villes telles que Lisbonne, Almada, Torres-Vedras et Amadora.
J'imagine bien l'ampleur de la tâche. Alors, l'auteur nous dit que l'on peut retrouver toutes ces affirmations et ces témoignages dans des blogs, ce qui du coup lui fait dire que les sources sont aléatoires et très approximatives. Du genre, le beau-frère de mon oncle a fait son service militaire à Mafra et m'a raconté que, ou j'ai un ami dont le cousin est sergent à Mafra et qui m'a dit que...
Oui, je vois le genre. Enfin, sans mettre en cause la bonne foi et la véracité de tous ces récits, on se demande bien pourquoi à Mafra, plus qu'ailleurs, les rats privés de lumière seraient beaucoup plus gros qu'ailleurs. Et pour quelle raison encore ils seraient blancs et agressifs ? Des rats, il y en a certainement dans les sous-sols du couvent de Mafra, comme il y en a dans tous les souterrains, tels des caves, des égouts ou des catacombes, mais ce sont certainement des rats comme tous les autres.
Oui Hélène, mais curieusement, selon l'auteur, il y aurait quand même un fond de vérité dans cette légende. Parce que selon lui, un capitaine de l'école d'infanterie installé dans le couvent aurait affirmé qu'un militaire serait un jour tombé par inadvertance dans les égouts, et qu'il aurait été retrouvé quelques jours plus tard, mort et partiellement dévoré par les rats.
Oui, c'est vrai. Et il paraît même qu'il serait mort dans sa chute, et que c'est par la suite que les rats, attirés par le sang, l'auraient partiellement dévoré. Alors devant tous ces mystères, il y a quelques années, la chaîne de télévision SIC serait descendue dans les souterrains du couvent pour y faire un reportage sur les rats albinos, et il n'y aurait trouvé que des rats lambda.
Comme quoi. Mais le couvent de Mafra n'a pas dit son dernier mot, parce qu'il possède d'autres mythes. Comme celui qui dit qu'il possède un tunnel qui le lierait à la ville d'Erisher, soit à une distance quand même de 10 km. L'histoire dit que suite à la proclamation de la République, le dernier roi portugais, Dom Manuel, l'aurait emprunté pour fuir les républicains.
Bah tu vois, ça, même ça, ce serait faux. Le tunnel existe effectivement, mais il n'est long que de quelques mètres. Et Dom Manuel aurait fui à partir de son domicile royal situé à Erisher et non à partir du tunnel de Mafra, où il n'aurait certainement pas pris le risque d'y croiser les rats albinos, violents et sanguinaires.
A noite passada acordei com teu beijo. Descias o dor e eu fui esperar-te ao tejo. Vinhas de uma barca que não vi passar. Corri pela margem da beira do mar. Até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rimo de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste. Abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escondida.
apareceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. A noite passada, um perdão ruiu pela fresta aberta, o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste: ainda bem que voltaste.
Le second démenti historique concerne la ville de Évora et plus précisément le temple de Diane, l'emblème de cette ville de l'Alentej. Je rappelle que c'est toujours à partir de l'œuvre de Sérgio Luís de Carvalho, Equívocos, Enganos e Falsificações da História de Portugal, que j'affirme que le temple qui trône au centre d'Évora, communément appelé le temple de Diane, ne lui était pas dédié et pourtant il porte bien son nom.
C'est vrai que le temple de Diane est l'un des monuments les plus connus au Portugal. Il est aussi symbolique pour la ville d'Évora que la tour des Clercs pour Porto, la tour de l'université pour Coimbra ou la tour de Belém pour Lisbonne. Et pourtant, il y a autour de l'histoire de ce temple l'une des plus grandes équivoques de l'histoire du Portugal.
Et oui Manu, on pensait tous que ce temple romain avait été consacré à cette belle déesse de la chasse, des animaux et de la lune, fille de Jupiter qu'était Diane. Mais il faut savoir qu'en fait, ce temple n'a pas toujours porté le nom de Diane pour la simple raison qu'il ne lui était pas consacré. Et non, puisque lorsqu'au 1er siècle, les Romains ont fait bâtir ce temple dans la ville de Liberitas Iulia, l'actuelle Évora, ils l'avaient dédié à l'empereur Gaius Iulius César Octavianus Augustus, plus connu sous le nom d'Auguste.
Et oui, et il existe même une deuxième version à l'attribution de ce temple. Une version qui affirme que le temple aurait été consacré au dieu Jupiter, le père de la déesse Diane. Tout cela ne serait donc qu'une affaire de famille.
Oui, qu'il ait été dédié à l'empereur Auguste ou au dieu Jupiter, on est bien d'accord que ce temple ne devrait pas porter le nom de Diane. Mais alors, comment cette déesse s'est-elle retrouvée à donner son nom à ce temple ? Eh bien, pour bien comprendre, il faut aller jusqu'au XVIIe siècle, n'est-ce pas Manu ?
Oui, exactement. Au moment où un certain Manuel Fiallo, un ecclésiastique, a écrit une étude intitulée « Evra Illustrata ». Dans ce livre, il défendait l'idée que le temple romain possédait bien une fonction de dévotion à la déesse Diane. Toujours selon Manuel Fiallo, le temple aurait été érigé par Sertorio, un général romain qui aurait vécu sur la péninsule ibérique, environ un siècle avant Jésus-Christ, et qui aurait apporté son aide aux Lusitaniens en menant une campagne militaire contre l'envahisseur romain, c'est-à-dire contre son propre camp. Et c'est depuis ce temps-là que le temple de Diane porterait son nom.
Ok, c'est assez compliqué, mais on peut imaginer qu'en remerciement à ce général romain, les Lusitaniens aient préféré cette version. Mais il faut savoir aussi que l'évolution de ce temple, depuis sa construction, a eu une suite assez dramatique. Parce que figurez-vous qu'au IVe siècle, en plein obscurantisme, l'empereur chrétien romain, Honorio, s'acharnait à détruire tous les temples païens. Et c'est donc ainsi que pendant son règne, le temple de Diane a été saccagé, tout comme d'ailleurs une grande partie du patrimoine portugais de l'époque.
Et puis au Moyen-Âge, les ruines du temple ont servi de boucherie. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'une poignée d'intellectuels, dont l'historien Alexandre Ercolano, redonne au temple son rôle originel.
Et puis, il faut dire qu'à l'époque, la version du père Manuel Fiallo avait fait son petit bonhomme de chemin et ces mêmes intellectuels ont trouvé que ce serait plus romantique si le temple s'appelait Diane plutôt qu'Auguste. Tout n'est finalement que question de goût.
És musa de beleza sem limites. Permites que o poeta em mim não cesse. Me consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando existes. Beleza assim de musa, tal qual trazes, arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limites. Permites que o poeta em mim não cesse. Consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando insistes em me inspirar. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonhos da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela. Thank you. aquilo que o teu silêncio explica. O destino traz para mim em labaredas, veredas onde somas da visão descompassa o coração. Mas a vida é bela.
Voici un dernier démenti d'une donnée historique qui a d'ailleurs été très médiatisée pendant les incendies meurtriers de l'été de 2017 au Portugal. On veut vous parler de la forêt de Lelinha, une superbe forêt lourde d'histoire qui a été gravement détruite pendant cet incendie gigantesque. Alors on a toujours appris que cette vaste forêt avait été plantée par le roi Dom Dinis, que l'on avait d'ailleurs surnommé le roi laboureur. Mais toujours selon l'historien Sérgio Luís de Carvalho, cette donnée historique serait fausse et il nous explique pourquoi.
Et oui, et pour affirmer ce qu'il avance, il fait référence à de grandes œuvres littéraires classiques en citant Camões et Fernando Pessoa. Et il nous dit que les œuvres de ces deux grands auteurs n'ont eu cesse d'alimenter l'imaginaire portugais. Il nous cite en exemple l'œuvre de Pessoa intitulée Dom Dinis, une œuvre qui alimente le mythe qui affirme que c'est à ce roi que l'on doit la plantation de la forêt de Lelinha, et desquels, arbres d'ailleurs beaucoup plus tard, on a extrait le bois qui aurait servi à la construction des caravelles parties à la découverte des terres et des océans.
Oui, mais ce ne serait effectivement qu'un mythe, hein, puisque ce n'est pas à Dom Dinis que l'on doit la forêt de Lelinha, mais à son père, le roi Dom Afonso III, qui autour du XIIIe siècle aurait fait planter cette immense forêt. Certains auteurs vont même un peu plus loin en affirmant que sa plantation, on la devrait à son frère aîné qui a gouverné avant lui. Bon, mais comme aucun écrit ne vient étayer cette dernière donnée, on part du principe que c'est bien Dom Afonso qui l'a faite planter.
Vu sous cet angle, et puisque l'on était encore assez loin de l'époque des grandes découvertes maritimes, on pourrait supposer que le but premier de la plantation de cette forêt n'était pas de fournir du bois pour la construction des caravelles. Puisqu'à l'époque, rappelons-nous, Dom Afonso était bien trop occupé à reconquérir pour la couronne portugaise des territoires cédés aux morts bien des années auparavant.
Eh oui, il semblerait en effet, selon Sérgio Luís de Carvalho, que le but de cette forêt était de stopper la sécheresse des sols et des vents secs et chauds qui arrivaient d'Afrique. Et Dom Dinis alors ? Comment se serait-il retrouvé dans cette histoire ? Eh bien, il se serait limité à agrandir cette forêt déjà existante et lui aurait attribué l'appellation de forêt de la couronne. Ce qui, du coup, d'une certaine manière, lui aurait donné un statut tout particulier. Et voilà pourquoi ce mythe reste encore entier aujourd'hui.
te ver. E você ainda me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso corro demais. Até de tudo não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa outro dia ver chegar. Então eu corro demais. Corro demais, corro demais, só pra te ver. Sempre ao meu lado eu não teria motivo pra correr e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais, corro demais só pra te ver. Corro demais, então eu corro demais, corro demais.
Vous avez certainement reconnu la chanson de Roberto Carlos, Police et Corro de Mage, mais dans une version beaucoup plus douce et acoustique de Adriana Calcagnotto. Alors, nous en avons terminé avec les démentis sur certains acquis historiques. On va changer de registre. On parlera de Quimble. C'est un événement qui est en train de se passer actuellement, enfin, qui devrait, sans Covid, se passer actuellement. On en dira deux mots et on vous laissera dans une ambiance de Quimble. Pour l'instant, voici deux pauses musicales.
Rei do reino da quem e de além dor é ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja é ter cá dentro um hasto que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito por umas manhas de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito, e amar-te assim perdidamente, e é seres a dizê-lo cantando a toda a gente, e amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente.
é ter de mil desejos o esplendor e não saber se quer que se deseja ter cá dentro um astro que flameja. É ter carros e asas de
mais que as palavras. Em sonhos que eram teus e do pó que pisavas fiz estradas e céu. Inventei ventos e ruas, fiz-me louco nos teus braços e das minhas frases nuas no teu corpo escrevi laços. E se partires de manhã, deixa a sombra e o chão. Esta noite eu e tu somos a palma e a mão. E no nome que te dei, tu já tens onde acordar. Amanhã eu não sei quem te vai abraçar. E então voltas do nada, sem pecado ou perdão. Esta noite eu e tu somos a palma e a mão. Esta noite eu e tu somos mais que a razão. Eu sou um mundo sozinho, por isso é fácil dizer não. Volta para mim esta noite para sermos a palma e a mão.
Terminer la chronique de ce soir, et comme le mois de mai touche à sa fin, on ne voulait pas vous laisser partir sans vous parler d'un événement qui a lieu tous les ans au mois de mai au Portugal et qui marque la fin des études universitaires. Il s'agit de la queima de chuitas, qui pourrait littéralement se traduire par le brûler des rubans, même si en français le titre devient du coup moins sympa qu'en portugais. Cet événement donne lieu tous les ans à une cérémonie grandiose dans laquelle participent les étudiants de toutes les grandes villes universitaires portugaises, entourés de milliers de personnes. Cette année, comme on peut l'imaginer, les rassemblements n'ont pas eu lieu, puisque interdits en raison de l'épidémie de Covid. Mais il semblerait néanmoins que, si la situation sanitaire le permet, tout soit reporté au mois d'octobre pour maintenir la tradition et permettre également et surtout aux étudiants finalistes de vivre ce moment si unique de leur vie académique. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les associations académiques en accord avec le Service national de santé portugais et par conséquent, ces fêtes étudiantes ont ainsi rejoint la longue liste des événements annulés dans le pays en raison de la pandémie. Alors effectivement, les cours avaient déjà été quant à eux suspendus le 9 mars et pour l'instant, l'essentiel est donc de concentrer tous les efforts pour permettre aux étudiants de passer au moins leurs examens de fin d'année. Mais la ville de Coimbra, qui est la ville étudiante portugaise par excellence, a quand même voulu marquer le coup et en lieu et place de la gigantesque sérénade nocturne devant des milliers de personnes, c'est quasiment à huis clos qu'elle s'est déroulée cette année. Et puisque tout rassemblement demeure toujours interdit, la sérénade monumentale a dû cette année se réinventer pour se transformer en un événement symbolique dans un format réduit, sans public et diffusé sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas empêché près d'un million de personnes de ressentir à distance l'émotion des accords de guitare et des voix du fado de Coimbra. Voici pour vous mettre dans l'ambiance de Coimbra quelques morceaux interprétés par les célèbres Tunas Académicas de Coimbra. La première que vous allez écouter est d'ailleurs celle qui a ouvert la sérénade cette année sur les marches de la cathédrale.
É preciso acreditar que o sorriso de quem passa é um bem para se guardar, que é luar um sol de graça que nos vem alumiar, com amor alumiar. É preciso acreditar que a canção de quem trabalha é um bem para se guardar, que não há nada que valha a vontade de cantar, a qualquer hora cantar.
cantando, as vozes cantando, a terna e doce babada. E atrás de uma janela, escuta uma alma encantada. E aquela linda donzela, calada não disse nada. Capas negras, Santa Clara, notas que vão embalando, beijos cortados a dedo, a lua a brilhar, a brisa a soprar, naquele encantado penedo, e uma guitarra chorando, baixinho quase em segredo, notas que vão embalando.
un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Et voilà, très chers auditeurs, quelle ambiance de Quimbre. Notre émission se termine. Merci à mes collègues Manu, Jeff. Merci à vous qui nous êtes déjà fidèles. Et ce soir, un petit coucou tout spécial à Sonia qui nous écoute à près de 800 km, n'est-ce pas, les garçons, d'ici, de Zoetermeer en Hollande. Bisous à toi, ma grande.
C'est la Hollande.
Et la Hollande, oui. On revient bien sûr la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Et n'oubliez pas, d'ici là, continuez à vous protéger et protéger les autres. Je vous embrasse. Manu, un
au
petit
revoir
coucou.
Tout le monde, Hélène, et puis à la semaine prochaine.
Ouais.
Et portez-vous bien.
Merci. Ben oui,
non, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison.
Beau.
Sonia, c'est la femme du hamster. C'est une Amsterdam.
On va être contente.
Et oui, rencontre lusophone, c'est terminé. À cabo. Mais on revient la semaine prochaine avec d'autres sujets, rien que pour vous. En attendant, si vous voulez réécouter cette émission, sachez que vous pourrez le faire demain sur cette même fréquence. Sinon, vous aurez le podcast à votre disposition sur notre page radio Rencontre Lusophone, au pluriel, ou sur la page web et Facebook de Radio Résonance. D'ici là, continuez à vous protéger et sortez couverts. À demain.